Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, nous commençons cette émission en vous présentant nos meilleurs vœux pour l'année 2020. Notre sujet est celui du cycle liturgique des fêtes de la Nativité du Christ, célébré par les orthodoxes le 25 décembre ou le 7 janvier, en fonction du calendrier suivi, et de la théophanie, c'est-à-dire du baptême du Christ, célébré respectivement le 6 ou le 19 janvier. Pour en parler, nous recevons Lyubomir Mikhailovitch, traducteur de textes de Saint Nicolas Velimirovitch, dont les homélies sur ces deux solennités sont au cœur de cet entretien. Mais auparavant, Lyubomir Mikhailovitch, parlons de l'auteur et surtout du contexte dans lequel ces homélies ont été prononcées.
Saint Nicolas Velimirovitch avait trois caractéristiques, trois charismes que l'on trouve rarement réunis en une seule personne. C'était d'abord un grand spirituel, un grand moine qui avait une vie intérieure intense. Chaque année, par exemple, il se rendait au mont Athos et il y allait régulièrement auprès de Saint Silouane. Mais ce grand spirituel, cet évêque, il est devenu évêque à l'âge de 39 ans, était un homme engagé dans le siècle. C'est sa deuxième caractéristique. Il a créé un vaste mouvement charismatique qui a eu beaucoup d'influence sur la vie de l'Église orthodoxe serbe et au-delà, dans les années 20 et 30. Et par ailleurs, il était résolument adversaire de toutes les dictatures. Dès l'arrivée des Allemands en Yougoslavie, en avril 1941, il a été interné, puis avec le patriarche Gabriel, conduit au camp de Dachau. Anticommuniste, il est mort en exil aux États-Unis en 1956. Grand spirituel, évêque engagé dans le siècle, c'était aussi un grand auteur. Polyglotte, il parlait 6 ou 7 langues couramment, il correspondait avec le monde entier et son cœur était ouvert à tous. Ses œuvres commencent seulement à être redécouvertes. Sous les régimes communistes, il était interdit d'en parler. Alors, ces homélies, de quoi s'agit-il ? Il s'agit donc des homélies sur les évangiles des dimanches et jours de fête qui rassemblent 60 homélies couvrant les trois cycles liturgiques majeurs. Celui de la nativité, incluant l'annonciation et la théophanie, puis celui du pré-triode, c'est-à-dire la période préparatoire du grand carême, du triode, le grand carême, de la grande semaine et de Pâques, et enfin le cycle de la Pentecôte, incluant tous les dimanches après la Pentecôte. Ces homélies ont été publiées en 1925 et se présentent en apparence comme des commentaires de l'Évangile du jour. Mais en fait, bien que portant sur des textes souvent commentés, ces homélies ne donnent jamais l'impression d'une redite, du déjà lu, déjà entendu. Pourquoi ? Comment ? Grâce à l'originalité du style de l'auteur. En effet, Monseigneur Nicolas réussit à se renouveler constamment, à avoir sans cesse une approche originale, tout en préservant un contenu parfaitement traditionnel. Dans un premier temps, il cite un épisode de l'Évangile de manière apparemment classique, description des fêtes. Mais il y introduit des rapprochements, des comparaisons originales propres à surprendre le lecteur. Puis, dans un deuxième temps, il se livre à une approche intérieure destinée à dévoiler le sens caché de l'épisode analysé, ce qui lui permet d'élargir l'horizon de l'analyse et d'inciter le lecteur à s'interroger lui-même sur le sens caché de l'épisode. Et puis, dans un troisième temps, l'auteur opère une synthèse des deux approches précédentes où il réussit très souvent, une nouvelle fois, à surprendre le lecteur, lui permettant de renouveler en toute liberté, j'insiste parce que c'est très important, c'est un pasteur qui nous parle en liberté, de cœur à cœur, lui permettant de renouveler en toute liberté sa propre lecture de l'Évangile. Les homélies consacrées au cycle de la Nativité illustrent admirablement l'originalité du style de Saint Nicolas et permettent, me semble-t-il, de comprendre l'enthousiasme et la joie que leur lecture peut apporter à celui qui les lit.
Un grand merci. Ce que je voudrais dire aussi à propos de... Il y a le style, comme vous dites, et puis c'est ce côté très immédiat que l'auteur a pour parler à son lecteur qui, en fait, on va voir si c'est un lecteur ou un auditeur au début, à qui s'adresse-t-il, hein. Ça, c'est déjà une question. Mais ce que je voulais dire, c'est que malgré cette apparente simplicité, il y a au plan théologique une précision qui est exemplaire, et très souvent on voit en très peu de phrases, avec quelques mots, il arrive à passer le message de l'enseignement théologique de manière simple, comme il le fait toujours, mais toujours très juste. Je dis ça parce que parfois on a des homélies qui sont bien écrites, mais au plan théologique ça peut laisser à désirer, hein. Et c'est pas le cas du tout ici. Alors, si vous voulez, bon, c'est un exégète aussi, comme vous dites, il renvoie, parfois on voit, il fait des comparaisons entre les évangiles, il dit tel évangéliste présente la chose comme ça, un tel autrement, c'est fait pour compléter, c'est pas du tout contradictoire, etc. Donc il fait aussi un petit cours d'exégèse sans que son auditeur ou lecteur le sente. Alors voilà la question, est-ce que ce sont des homélies prononcées vraiment ou ce sont des textes écrits ?
Ce sont des homélies dont certaines ont été certainement prononcées, et puis ensuite, leur contenu a été développé. Puisque ce qu'il veut, c'est insuffler l'esprit de l'Évangile au plus grand nombre possible de gens. Et pour y arriver, il commence certainement par parler, par prononcer une homélie, et ensuite il développe les thèmes qu'il a abordés, trop brièvement à son sens, dans des homélies écrites. Donc effectivement, la majeure partie de ces homélies, publiées en 1925, ont été écrites, inspirées certainement par des homélies déjà prononcées, mais développées. Je dirais que ce théologien, pourquoi est-il limpide? Pourquoi change-t-il? Et j'ai eu des témoignages à ce sujet de gens très divers. Pourquoi change-t-il la vie des gens quand ils ont lu, en particulier ces homélies? Parce que ce théologien est aussi un écrivain. C'est un poète. C'est un lyrique et un réaliste. Il n'est jamais pontifiant. Il n'est jamais redondant. Il n'est jamais assommant. Il est toujours joyeux. Il est toujours, j'allais dire, c'est un homme de la nature qui n'a pas peur des gens de la cité, mais pour qui tout être et fraternel. Donc c'est un pasteur, un père et un frère.
Une pause donc musicale, on va dans l'église pour écouter un extrait de la liturgie de Noël par la chorale Saint-Jean d'Amasène dirigée par Serge Sauret. Et après ce mégalinaire de Noël par la chorale Saint-Jean d'Amasène, dirigée par Serge Sauret, nous revenons à notre entretien avec Lubomir Mikhailovitch sur les homélies de Saint-Nicolas Velimirovitch. On va en venir à nos homélies sur Noël et le baptême du Christ, mais tout ceci est placé dans la pensée et dans ces homélies, dans ces textes de Saint-Nicolas, sous le thème général de l'obéissance et de l'humilité. Hein, il le dit très souvent. tout ceci est vraiment inscrit dans cette ligne d'obéissance, l'obéissance du Christ comme fils, évidemment, qui obéit à son Père, et tout s'inscrit là-dedans. Et il insiste aussi sur les libertés, c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que c'est un grand théologien aussi. Alors, obéissance et humilité chez Saint Nicolas.
Oui, c'est le fil rouge du cycle des homélies sur la nativité. Dans la toute première homélie qui introduit le livre, l'homélie pour la fête de l'Annonciation, Saint Nicolas souligne que les douces paroles de la Vierge « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole » expriment l'obéissance la plus absolue et l'humilité la plus entière. Et ce thème va revenir tout au long de notre cycle. Dans la première homélie pour la Nativité, il dit « Quiconque s'approche avec obéissance et humilité du Seigneur Jésus-Christ n'aura plus jamais envie de se séparer de lui. » Mais il précise que dès l'origine, Dieu avait tenu à ce que l'homme agisse comme un être libre, car c'est dans la liberté, précise Saint Nicolas, et c'est là où il est vraiment très fort, dans la libre autodétermination de l'homme que réside toute la magie de l'homme. Sans la liberté, l'homme ne serait qu'un habile produit mécanique fabriqué par Dieu. Et le thème de l'obéissance et de l'humilité revient aussi dans la seconde homélie de la Nativité, où il met l'accent sur l'humble obéissance filiale de l'homme envers Dieu que le Seigneur Jésus a démontré en décidant de naître comme un homme de chair, car l'enveloppe corporelle dégradée de l'homme était pour lui une grotte encore plus humiliante que celle de Bethléem. Et puis, dans la quatrième homélie, il dit « Le Seigneur Jésus a donné l'exemple d'une humilité infinie et a proclamé que la valeur d'un homme ne dépend pas de son lieu de naissance, mais de l'esprit qui est en lui. Par sa naissance, il a montré que dans son royaume, les hommes ne seraient pas élus en fonction de leur origine, richesse, érudition, position sociale, mais de l'innocence de leur âme, de la pureté de leur cœur et de la crainte du Dieu de leur esprit. L'humilité et l'obéissance, il en reparle encore, et il prend presque son lecteur, son auditeur à témoin. Dans l'homélie pour le dimanche avant la théophanie, il souligne que le Christ est venu enseigner aux hommes l'humilité qu'ils avaient oubliée et l'obéissance qu'ils avaient transgressée. Les hommes dénués d'humilité et d'obéissance ne possèdent ni sagesse ni amour. Celui qui en est démuni n'a pas accès à Dieu. Et celui qui n'a pas accès à Dieu est privé de lui-même. Il est comme s'il n'existait pas. L'obscurité et l'ombre de la mort. Dans l'homélie pour la théophanie, il rappelle, Saint Nicolas rappelle, qu'à travers toutes ses créatures au ciel et sur terre, Dieu enseigne aux hommes l'humilité et l'obéissance. Cet enseignement vivant, il le donne aussi lors de son baptême dans le Jourdain. Et voici, dit l'auteur, et c'est magnifique parce que on retrouve le théologien, mais aussi l'écrivain, le lyrique, l'homme inspiré. Et voici, dit Saint Nicolas, que se révèle une scène sans équivalent dans l'histoire des hommes. Établi au milieu des pécheurs, dans le Jourdain, le Christ sans péché demande à Jean de procéder avec lui comme avec les autres.
Et obéissance encore de Jean, parce qu'il prend Jean également comme exemple d'obéissance au projet de Dieu. Et le Christ aussi, enfin, tout est inscrit, comme vous avez dit, dans cet exemple d'humilité et d'obéissance. Alors, une autre pause musicale, cette fois-ci, ce sont les sœurs de Sainte-Élisabeth de Minsk qui chantent un chant de Noël, Sapin.
Господь Иисус родился.
La sœur du monastère Sainte-Élisabeth de Minsk chantait cette chanson de Noël, Sapin, puisque évidemment il y a plusieurs églises orthodoxes qui fêtent Noël le 7 janvier, donc ce sera après-demain, dont d'ailleurs l'église de Serbie, qui reconnaît la personne de Nikola Velimirovitch un saint, et à juste titre. Je rappelle aussi le titre de l'ouvrage dans lequel on trouve les homélies de Saint-Nicolas, ouvrage paru en 2016, chez l'âge d'homme, dans la collection Grand Spirituel Orthodoxe du XXe siècle, collection dirigée par Jean-Claude Larcher, et le titre est « Homélie sur les évangiles des dimanches et jours de fête ». C'est un livre vraiment de chevet pour qui veut se nourrir de chacune des fêtes de l'Église, et comme vous avez dit, ça va bien au-delà. Alors, nous revenons à notre discussion donc sur les homélies de la Nativité et de la Théophanie de Saint Nicolas Velimirovitch. Et Lyubomir Mikhailovitch, si vous voulez bien me donner d'autres thèmes qui lui sont chers et qui reviennent souvent dans sa pensée.
Oui, je dirais que le premier thème qui revient, c'est la simplicité. La simplicité de son expression. Il n'y a pas de problème trop complexe pour Saint Nicolas. Chaque fois, il sait rendre les choses les plus complexes accessibles au lecteur et quelle que soit son origine, sa formation. Par exemple, dans son homélie pour la nativité, la première homélie pour la nativité, il dit « Si on cultive assidûment l'obéissance et l'humilité dans son âme, on verra se développer à leur côté toute une gerbe d'autres vertus. L'une des premières est la simplicité, intérieure et extérieure. Voyez seulement » Et Saint Nicolas prend le lecteur pour témoin, ce qui lui arrive très souvent. La lecture n'est jamais ennuyeuse avec lui parce que il dialogue avec son lecteur. Voyez seulement avec quelle simplicité exemplaire les évangélistes décrivent les plus grands événements de l'histoire du salut du genre humain. Peut-on seulement imaginer, se demande-t-il, à quelle phraséologie ou à quelle dramaturgie boursouflée un écrivain aurait eu recours pour décrire tout ce qui s'était passé dans l'âme de l'homme simple, obéissant et humble qu'était Joseph au moment où il apprit que sa protégée et fiancée était enceinte. Tout cela est décrit dans l'Évangile en quelques phrases simples. Deuxième thème, je pense qu'il revient tout le temps dans les homélies, c'est l'amour. Dieu est amour, c'est l'épître, la première épître de Saint Jean. Et dans sa seconde homélie sur la nativité, Saint Nicolas dit « Quant à l'amour paternel de Dieu pour l'homme, le Seigneur Jésus l'a démontré en souffrant avec les hommes et pour les hommes. Il ne pouvait pas naître comme fils d'un empereur terrestre, car sa méthode ne pouvait pas être l'épée et le feu, le décret et la force, mais la guérison délicate des malades et le lent retour sur le chemin du salut. » Simplicité, amour, et je dirais qu'il y a un troisième thème qui est très important pour Saint Nicolas, c'est l'innocence. Dans sa quatrième homélie sur la nativité, il souligne qu'en envoyant Jésus en Égypte, Dieu a d'abord pour objectif de sauver la vie de son fils, de le faire échapper au massacre qui va se produire peu après à Bethléem. Mais Saint Nicolas nous rappelle que rien au monde n'est plus fort que la pureté et l'innocence. Celui qui a tué un innocent s'est tué lui-même. Ce ne sont pas les rois qui sont forts, ce sont les enfants qui le sont. C'est le fond, et il ajoute, c'est le fondement principal du Nouveau Testament du Christ. Et c'est pour cela qu'à mon sens, ces homélies ont une valeur permanente, éternelle.
En effet, oui. Et puis l'enseignement, pour terminer, peut-être un petit commentaire sur l'homélie sur la théophanie, à l'occasion de la fête de la théophanie. Et là, nous voyons dans son livre, dans ce texte, de quelle manière il fait l'exégèse, évidemment, pour passer du baptême du Christ au baptême de tout chrétien. Cette idée, qui est une idée paulinienne, est très forte évidemment, très bien développée, enfin, merveilleusement par saint Paul, essentiellement dans l'épître aux Romains, mais qui revient évidemment dans la pensée chrétienne et de l'auteur ici, c'est que nous sommes baptisés dans la mort du Christ pour ressusciter. Hein, c'est ce qui est vraiment le symbolisme de ces trois immersions dans l'eau, et qui étonne parfois ceux qui ne connaissent pas, et qui est vraiment très parlant de ce côté-là. Donc, il rappelle que le Christ s'immergea dans l'eau, non pour se purifier, mais pour noyer symboliquement l'homme ancien. Parce que le Christ s'est baptisé aussi, et la question est posée aussi dans l'Évangile, mais pourquoi le Christ s'est fait baptiser? Il n'en avait pas besoin. Et la réponse est que pour la justice de Dieu soit faite, c'est-à-dire le projet de Dieu, hein, le projet, l'économie, comme on dit, de Dieu, le projet du salut. Donc, un trésor, vraiment une mine de renseignements, mais également de paroles pastorales et de paroles théologiques dans ce beau livre avec les homélies sur les évangiles des dimanches et jours de fête de saint Nicolas Velimirovic, paru donc chez l'âge d'homme, collection grand spirituel orthodoxe du XXe siècle. Lyubomir Mikhailovic, je rappelle que vous avez traduit ça et d'autres livres de saint Nicolas. Un grand merci. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation Anne Pérez. Prise de son Bastien Varigaud. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.